France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Pepe el Moko, la maison du Maltais, Casablanca, le port de l'angoisse, et puis évidemment la grande illusion et la règle du jeu. À travers ces films, et encore des dizaines d'autres, on devra toujours se souvenir de Marcel Dalliot. Pour le comédien, le grand second rôle qu'il a été, pour l'élégance même qu'il était à l'écran comme à la ville, et aussi pour la paire d'amis excessivement vivants et inconvenants qu'il aura formé avec Pierre Brasseur au temps de leur turbulente jeunesse. Pour nous souvenir de Marcel Dalliot, nous l'écouterons maintenant en 1976, alors qu'il était l'invité de Claude Jean-Philippe dans Le cinéma des cinéastes pour la parution de son livre de souvenirs « Mes années folles ». Dalliot, puisque depuis les années 30, le public des salles de cinéma, comme il disait Carette, Emos ou Charpin, ne l'avait jamais appelé autrement que Dalliot. Dalliot, donc, était à lui seul tout un pan de l'histoire du cinéma des deux côtés de l'Atlantique, car, décidément trop juif aux yeux du régime du maréchal et à ceux de l'occupant, ce soldat valeureux de la Grande Guerre avait dû s'exiler aux USA durant l'occupation et la collaboration. Comme nous allons l'entendre le rappeler, cela lui valut de croiser, entre autres, la route de Von Sternberg, de Griffiths, de Henry King, de Michael Curtis, de Bogart, de Bacall, d'Howard Hawks et plus tard de John Ford et de John Wayne. Dans ce cinéma des cinéastes, Marcel Dalliot parlait de son métier tel qu'il était avant et tel qu'il était devenu. Il parlait de Jules Berry, de Brasseur, de Freinet, de Gabin, d'Eric von Stroheim et il parlait de Jean Renoir. Du lieutenant Rosenthal, de la Grande Illusion et du marquis Robert de la Chesnaye, de la Règle du Jeu, que l'on ne peut et que l'on ne doit jamais oublier. Le cinéma des cinéastes avec Marcel Dalliot, diffusé la première fois le 11 avril 1976 sur France Culture.
Mes années folles, le livre de souvenirs que vient de publier Marcel Dalliot aux éditions Jean-Claude Lattès, s'intitulait primitivement « Les mémoires d'un fond de teint ». Je ne saurais trop inviter les cinéphiles à lire ce livre où ils verront se dérouler le tableau d'une vie pleinement et forcenément vécue dans l'artifice, en équilibre instable sur la frontière indécise du vrai et du faux, en mouvement donc comme le plus captivant des scénarios romanesques, où le duel de la réalité et de la fiction se joue au plus haut niveau de pathétique et de drôlerie. Voici Marcel Dalliot en personne dans le studio du cinéma des cinéastes, où il éprouve naturellement le besoin d'entrer en scène.
Ah, j'ai eu un coup au cœur, faut frapper les trois coups. Allez, je suis à toi.
Marcel Dalliot, laissez-moi vous dire d'abord le plaisir que j'ai de parler avec vous à l'occasion de cette émission. Il se trouve que vous n'êtes pas un acteur comme les autres parce que tous les cinéphiles, et tous ceux de ma génération en particulier, qui ont été nourris par la règle du jeu, qui ont vu la règle du jeu, pas une fois, mais ni cinq fois, mais 10 fois parfois, ont conservé votre image et votre voix en eux-mêmes. Et il y a une question qui se pose tous, je veux dire, et qui concerne également votre génération de comédiens. À savoir comment se fait-il que nous ayons eu dans les années 30 en France ces acteurs qui s'appelaient Marcel Dalliot, Jules Berry, Pierre Brasseur, oui. D'où venaient-ils?
Ben oui, mais il y a une raison, ils ne pouvaient pas se galvauder comme maintenant, je ne peux pas médire de la télévision, mais ça va trop vite, même les répétitions sont faites comme ça de petits raccords. Tandis que là, c'était dans les pièces, vous les jugiez par les pièces, et puis s'ils étaient très très bien, on les prenait. Si on prend le cas de Berry, qui est venu très tard, lui, au cinéma, mais il avait déjà avant 30 ans de théâtre, 30 ans de fantaisie, 30 ans de folie, puisque même sa vie privée était jouée, quoi. Alors, en somme, il répétait tout le temps. Il était prêt à entrer en scène n'importe où, une salle de casino ou même dans un studio. Ce qu'il a fait, c'est pourquoi il a émerveillé tout le monde. Et c'est un changement de génération, quoique maintenant, il faut les écouter. Parce que les petits de maintenant sont plus astucieux que nous. Alors, d'ailleurs, c'est le genre de film qu'on leur fait tourner. Ça se passe toujours dans les rues, ils font un peu l'accent parigot. C'est toujours un peu bas comme style, alors c'est plus facile. C'est plus facile dans le langage courant d'être vrai que dans un langage un peu travaillé, en poulet pour eux. Mais pour nous, c'est nos classiques. On vient des classiques, voilà.
Vous venez des classiques et en même temps des revues, parce qu'il y a une chose qu'on ignore complètement parce qu'on n'en a pas revu, enfin, ce sont les revues de Rip. Comment...
Mais oui, mais moi, je suis un cas pour cela parce que je ne pouvais pas jouer. Petit, faisant Levantin, je n'avais pas ma place dans le répertoire français. Alors j'ai été obligé de me cacher. Pendant des années, je me suis caché jusqu'en 34, donc de 19 en revenant de la guerre, jusqu'en 15 ans. Je mettais des perruques, alors je pouvais être Clémenceau, je pouvais être le concierge du coin, je pouvais même être Gabin, si je voulais, en prenant un petit accent du trottoir, enfin, ou de l'usine, pour ne pas l'accabler, mon pauvre Jean. Alors, là, évidemment, j'étais obligé de jouer à peu près tous les personnages de la vie, sans aucune prétention, puisque c'était, on se moquait. C'était du maquillage, quoi. Mais ce maquillage me faisait jouer vrai le faux, puisque c'est la caricature. C'était toujours trop. Alors évidemment, après, on a dit, il en fait trop. Et quand je revois mes vieux films, je ne vous ennuie pas avec ça. Parce
pas
que
du tout, au contraire, c'est passionnant.
De m'excuser de ces critiques. Moi-même, je suis le premier à dire, j'en fais trop, mais j'en faisais trop dans la vie. Bien sûr, j'avais un tel appétit de vivre, de remplacer le côté Valentino par des excès de langage, par de l'argent dépensé trop facilement. Alors je remplaçais la beauté par une certaine largesse, si vous voulez. Alors j'arrivais à être beau comme ça, surtout que ma vie se passait la nuit. Quand je ne travaillais pas, il m'arrivait souvent de me lever à minuit, tout frais, et d'aller faire la fête. On disait, il est formidable, non, ça, il a l'air de se lever. Et c'était vrai. Bon, enfin, pour en revenir à ce qui nous concerne, oui, j'ai joué les revues, j'ai pris tous les accents, j'ai imité tous les ténors, même les sopranos. J'étais bien, mal, bien entendu, mais on pouvait, puisque c'était une blague. Et, mais ces revuistes était dans la tradition. N'oublions pas que les Dorin que j'ai interprétés, qui était le père de Françoise Dorin, les Rip, c'est des gens qui venaient des classiques. On peut les relire. Ça se tient comme du Molière. On l'a bien dit sur Sacha Guitry, on peut le dire sur Rip, qui avait des mots étincelants tout le temps et qui avait un sens dans les caractères. On interprétait plutôt des caractères. Il nous fallait jouer vrai nos folies. Autrement, on ne les aurait pas acceptées. Le maquillage était outrancier. Mais sous le maquillage, il y avait quelque chose de profond qui est la critique. Elle a besoin d'être sobre, tenue en laisse, la critique. Autrement, ce sont des ragots. Vous le savez bien, puisque c'est votre métier. Bon, enfin, ça, je passe là-dessus. Ensuite, coup de veine. En vieillissant, on commence à ressembler à tout le monde, naturellement. Et puis, on me demande pour jouer la pièce de Bourdet. C'est un premier succès de boulevard. Mais je restais encore dans la composition. Mais Bourdet, c'était presque de la décomposition, puisque ce jeune Bob Laroche était gâteux. Mais nous avions alors les personnages étincelants, pour en revenir au Berry, au Brasseur même, mais nous imitions tous quelqu'un. Nous avions tous une statue du commandeur que nous imitions.
Et pour alors, vous, c'était qui?
Eh bien, moi, c'était Charlie Chaplin. Évidemment, je ne l'avais pas encore entendu parler, et j'avais de telles prétentions à l'époque que quand je l'ai entendu parler dans un film, longtemps après, j'ai dit, mais il a ma voix, comme si c'était lui qui m'imitait. Et j'étais sûr qu'il avait cette voix. Alors, c'est stupide. Bon, tous imitaient, enfin, Charlot, comme ça, parce que c'était le style de 20 à 40. Même les auteurs ont imité ce style, ont pris dans Charlot, sans nous amuser autant, il faut bien le dire, parce que tout ce qui est pro-rouge, extrême gauche, ça vient de ces films-là. C'est la pauvre victime qui ne peut pas s'en sortir, qui a une vie de chien. Mais il le faisait en s'amusant. Et je regrette qu'il n'en fasse pas autant. Parce qu'on est prêt à les suivre. Bien sûr, il y a tant de malheureux. Alors, Prianta, ça n'en fait qu'un, même s'ils sont des milliards. Bon, ça, c'est la loi de la jungle, dit-on, et c'est la loi de la vie. Je le crois, enfin, ça. C'est parce que je suis un vieux bonhomme que je parle comme ça, et que j'ai peur des changements. Voilà. Même moi.
Mais c'est tout de même intéressant que vous soyez identifié à Chaplin, dans la mesure où, après tout, il y a une certaine correspondance entre votre vie et la sienne. Je veux dire, la taille...
Oui,
la, c'est ça. L'origine religieuse.
Oui, mais c'est cela. C'est pourquoi la voix, j'étais sûr qu'il avait un peu cette voix grave. Et puis, la taille, c'est une revanche qu'on prend, n'est-ce pas? Évidemment, tous les petits peuvent se dire, oh ben, si Charlot a réussi, si Napoléon a existé, si Jules César a conquis le monde, je vais réussir ma vie. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut voir grand.
Et d'autre part, dans ces revues, vous pratiquiez pratiquement toutes les disciplines du spectacle, puisque vous chantiez, vous mimiez,
oui,
vous parliez.
Oui, oui, c'est cela. C'est ce qui m'a permis par la suite, dans des rôles de composition, pour moi, c'était toujours de la composition. Et tout à l'heure, vous m'avez fait bien l'honneur en rappelant le Marquis de la Chesnaye. Mais pour moi, le Marquis de la Chesnaye, c'était un personnage de composition. Et quand je l'ai revu, parce que je ne l'ai pas beaucoup vu le film, je l'ai revu une fois en Amérique, parce qu'on l'a présenté dans des écoles et j'ai été un peu bavardé avec les étudiants, je me suis trouvé triste. Et en réfléchissant par la suite, j'ai compris que le personnage était triste. Il était sans volonté, sans pouvoir, malgré son argent. Ce n'est pas l'argent qui donne le pouvoir intérieur. Il n'était pas mauvais. L'homme, mais il était triste ou mélancolique. Voilà ce que j'ai, comment je me suis jugé. Mais maintenant, il y a aussi qu'à travers les revues, j'ai toujours besoin de faire des effets. Vous voyez, même dans la conversation, si je peux en placer un petit, je le fais en passant.
Non, mais alors, la revue vous donne, vous rompt pratiquement à toutes les disciplines du spectacle, puisque oui. Je veux dire que votre manière de marcher, même dans la règle du jeu, de vous voir traverser ces couloirs, on a l'impression que vous marchez comme personne.
Oui, c'est cela. C'est cela, parce que dans les revues, on joue toujours face à la salle. Alors on a compère commère, et je pense qu'on soigne le devant, si vous me permettez cette expression. On soigne le devant et on ne se voit pas de dos. D'ailleurs, on ne joue jamais de dos, il n'y a qu'au cinéma. Et alors, évidemment, vous m'avez vu là, moi-même, j'ai été surpris. J'ai un peu la démarche, il ne faudrait pas grand-chose pour que ce soit Laurent Houtan du zoo. Un peu.
C'est une démarche formidable.
Danser. Oui, peut-être que ça sert le personnage.
Ça sert magnifiquement le personnage. Dans cette espèce de poursuite de tous les personnages, je vois terriblement nettement le marquis se promener à travers les couloirs du château avec cette espèce de démarche étonnante.
Oui, enfin. Alors maintenant, pour en revenir à votre propos, vous parliez des générations qui se contrarient, puisque nous sommes de l'ancienne génération, il y a les nouveaux. Nous, c'était le mouvement qui comptait. Alors, par les revues, c'est le mouvement. Il n'y a pas de doute, la chanson doit aller, ça doit être presse, et ça. Et une seconde, ça prend une heure. Tandis que maintenant, avec le cinéma vérité, on prend son temps, mais dans la vie, on a son temps. Avant que le concierge du coin qu'on nous montre, là, avec, en montée en épingle, puisque c'est le cinéma... plaisante, enfin, oui. C'est le cinéma vérité. Ça veut être la femme de ménage qui se repose un temps. Mais dans la vie, elle a le temps de se reposer 10 minutes entre deux étages. Mais dans le cinéma vérité, on les suit. Et les petits n'ont pas de mouvement. Ils sont merveilleusement vrais. C'est la vie même, mais ça dure trop longtemps. Et même les cinéastes qui viennent, ils oublient une chose primordiale, c'est le mouvement. On ne peut intéresser les êtres que nous sommes que par le mouvement. Même les bêtes, ils ont peur de notre mouvement s'il est un peu abrupt, bien sûr, mais si on veut gagner une partie avec un être qu'on va aimer ou dont on veut se faire aimer, c'est par un certain mouvement. Il se passe toujours quelque chose, parce que dès qu'il y a un silence, c'est la mort. Et c'est la mort tout le temps. Et les hommes politiques à droite le sentent bien, parce qu'ils n'arrêtent pas de parler. Ils ne laissent pas même le temps à l'interlocuteur de répondre. Tandis que maintenant, voilà la différence. Mais ça donne des choses bonnes. Je peux vous citer un exemple. J'ai à tourner dans un film américain avec Mac Nichols, Catch 22. Je ne sais pas si vous l'avez vu. et je joue là un vieux mec. Bon. Et ce vieux patron de maison close, c'est pendant la libération de l'Italie, il y a les Américains qui sont là, et les G.I. viennent chez lui. Et je vois arriver le petit Simon Garfunkel dans une scène avec moi. Et tout d'un coup, le petit me dit « Oh, Mac Nichols m'a dit de bien me tenir parce qu'il vous a vu dans vos films, ce sont des classiques, enfin tout le blabla nécessaire, qui fait plaisir d'ailleurs. » Mais il me dit « Alors, je vais me tenir. » Et il avait répété la scène avec moi. Mais je lui dis « Je vous demande bien pardon, mon petit Garfunkel. C'est moi qui vais vous imiter parce que tout d'un coup, j'arrivais, moi, comme les acteurs de ma génération, je prenais la scène en main, je parlais, je faisais un peu de voix, j'étais dans le mouvement, mais c'était un peu apprêté. » Et lui répondait simplement « Mais alors, comment, pourquoi me dites-vous ça ?» Je lui dis « Je vais vous voler vos effets à vous. » Et je l'ai fait. Et la scène était charmante, enfin. Et c'était vrai. Tout d'un coup, j'ai reçu une paire de gifles, comme nous la recevions, de Jules Berry, qui ne s'embarrassait pas, lui qui avait tout appris aussi, sur scène et dans les casinos. Alors, bon, il arrivait, et je la cite dans le livre, je ne sais pas si vous l'avez lu,
oui, j'ai lu,
où je cite Pierre Brasseur, qui passe pour le géant de 1950 à 60, où il a joué le diable et le bon Dieu, et le cher monteur, où il s'est affirmé comme un maître du théâtre. Eh bien, nous jouons une scène, Brasseur et moi, et Berry, sur la fin de sa vie, à sa houppelande, enfin, vous savez comment il s'appelle, il avait l'air d'un polichinelle, et il était très chic quand même. Nous qui sortions de chez le tailleur à la mode, on était apprêtés, et lui, ça lui allait. Ce côté laissé aller, lui allait. Il a simplement à dire, on vous demande. Eh bien, tous les deux qui avions la scène, car c'était une scène entre moi et Pierre, il a suffi que ce souffle merveilleux qu'était, car je l'imagine comme un vent qui purifie nos trucs, le père Berry. Mais il n'avait pas l'air d'entrer. Il était déjà là. Il n'entrait jamais, comme il ne sortait jamais tout en sortant. Et c'est ça la grande qualité de l'acteur, c'est de ne pas faire une entrée et de ne pas faire une sortie. Elle l'est faite quand même, mais ça ne se voyait pas avec lui. Enfin, je vous dis ce que j'ai ressenti.
Mais ce qui est merveilleux aussi, c'est que votre génération d'acteurs a magnifiquement contribué à la carrière de très grands metteurs en scène. Et vous avez eu, et Renoir a eu avec vous, la chance de vous avoir. Et parlons de Renoir, je crois que vous parlez admirablement de Renoir. Vous faites un portrait de Renoir que j'aimerais vous faire refaire une fois de plus.
Oui, mais c'est Renoir faisait confiance aux acteurs, d'abord parce qu'il ne prenait pas tellement l'acteur pour le nom. Il prenait le personnage. Quand il a pris Freinet, vous parlez de La Grande Illusion, parlons-en, puisque c'est le grand film de Jean Renoir, il l'a pris pour le côté un peu précieux qu'il y avait dans la diction d'un homme qui a joué Musset, qui a joué Molière, qui pouvait jouer Racine, il pouvait tout faire. Freinet. Mais il y avait un ton un peu comédie française, qui n'était pas déplaisant, mais qui allait avec le hobereau. C'est pourquoi il l'a mis en confrontation avec Stroheim, qui était un hobereau prussien. Et comme vous le savez, d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que Stroheim n'est pas du tout un hobereau prussien. On l'a cru, vous le savez très bien, qu'il est d'origine juive et qu'il a fait croire aux Américains qu'il arrivait tout droit de la Ufa ou des grands maîtres du cinéma allemand. C'est ça qui est amusant. Bon, alors, il a pris Gabin parce que Maréchal, un homme de tous les jours, un homme qui peut être manœuvre ou pas gérant, mais contremaître dans une usine, c'est Gabin. Alors, il y a cette confrontation. Et moi, il m'a pris parce que, en effet, j'avais joué une pièce qui s'appelait Les Tricheurs. Il ne devait pas beaucoup le savoir. Mais d'après mes cheveux frisés, mes yeux langoureux ou étincelants à volonté, ça dépendait le partenaire ou la partenaire, il prenait les personnages. Alors, il prenait vraiment Rosenthal, comme il prenait Maréchal, ou de Boieldieu, ou le hobereau prussien, voilà. Et même dans des personnages secondaires, il prenait les personnages. Alors ça donnait une vérité. Tandis que maintenant, on prend une vedette qu'on appelle locomotive, nous ne connaissions pas ce terme. Locomotive, ça ne nous disait rien. On aurait été honteux d'être associé, non pas une locomotive, mais à cette démarche qui fait qu'on devient une grosse mécanique, quoi. On nous aurait appelé éléphant ou Ou petit toutou, ça nous aurait été plus agréable.
Alors racontez-moi un peu les rapports de Renoir et de Stroheim, parce que c'est bien intéressant. Renoir admirait énormément Stroheim comme metteur en scène.
Mais voilà, mais il doit jouer. Et tout d'un coup, ce n'est plus le même propos. Alors on fait semblant d'écouter Stroheim et on se dit quand même, quand on est Renoir, oui, mais ça c'est déjà dépassé, nous ne tournons pas la Veuve Joyeuse, nous ne tournons pas Danse de mort. Comment amener ce grand maître à obéir? Alors c'est très difficile parce que l'autre jouait aussi tout le temps. Alors lui, il jouait l'homme qui se saoule. Il avait toujours une petite bouteille de whisky, il buvait ça entre les scènes. Et, il jouait l'homme qui peut boire, qui peut affronter la vie, les hommes, les femmes. Enfin, il jouait le personnage de théâtre ou de cinéma. Car dans la vie, c'était un homme très simple.
Et presque naïf.
Il était la brebis qu'on pouvait tondre. D'abord parce qu'il nous invitait toujours et on en profitait bien. Parce qu'on le croyait toujours bardé de dollars. Il arrivait en Amérique. Bon, alors il le prenait la nuit. Et il faisait semblant de discuter longuement sur une entrée avec des bêtes, des chiens. Comme ça, des descentes au château de Königsbourg, tout ça, on en parlait. Et il faisait semblant de lui faire plaisir, mais il l'amenait tout doucement, Stroheim, à faire ce que lui, Jean. Et ça avait l'air de venir de Stroheim, tout ça, des grandes descentes avec des chiens. Mais ça plaisait bien à Stroheim, parce qu'il y avait le spectacle d'une arrivée d'un grand officier prussien avec ses bêtes, la descente dans le vieux château et tout ça. Enfin, il faisait tout ça. Et n'oublions pas que Renoir était un truqueur de génie pour nous tirer le maximum. C'était un dictateur, et je crois que c'est le rôle de tous les artistes, c'est ça, la vraie dictature, elle est là, et c'est obligé. Quoiqu'au cinéma, ça se partage, on se partage la dictature avec le caméraman, avec l'auteur qu'on oublie un peu, bien sûr, mais il nous avait comme ça, il nous flattait beaucoup. Moi, par exemple, si j'avais à dire, et je le dis d'ailleurs dans le livre, si j'avais à dire « Ah, Boieldieu, ah, Maréchal !» Je disais ma réplique et pleurais. En larmes, il arrêtait la production 10 minutes, tellement il était ému par ce « Ah, Maréchal !» Alors, moi-même, j'étais épaté d'apporter tant d'émotions dans « Ah, Maréchal !» Alors que je me grattais le nez tout en disant un maréchal, enfin, où je me mouchais, ça n'avait pas plus d'importance. Et il me le faisait refaire. Alors on disait « Oh, maréchal !» Ou « maréchal », on supprimait le « A », le « O ». Et puis après, on finissait de « dos ». Et pendant ce temps-là, il cherchait. Vous savez qu'il y a un passage près du luminaire, là, du... Comment appelle-t-on ça, l'appareil de musique, le...
c'est dans la règle du jeu, ça.
Oui, dans la règle du jeu. Eh bien, cette scène... où on voit les petites dames, les cantinières jouer du tambour, ou les petits soldats jouer du piston, et puis finalement ça arrive sur moi, où je ne dis rien, où je suis émerveillé d'avoir apporté un tel instrument à mes invités. Mais on l'a fait 12 fois, et n'en était toujours pas content, tout en pleurant entre chaque prise. Ça a pris tout un après-midi, et le lendemain il me l'a fait refaire. Et j'étais tellement excédé d'arriver, petit tambour des cantinières, petit piston des poilus de 14, et puis ça arrivait sur moi. J'étais tellement excédé que je l'ai fait à un moment, j'ai rien fait. Et c'est ça qu'il a pris.
Ah, mais c'est un plan magnifique, oui, c'est un plan dont tout le monde se souvient.
Oui, oui, mais moi, je n'y étais pas du tout. J'étais intérieurement hargneux. C'est vous dire que l'art cinématographique n'a aucun rapport avec le théâtre, aucun. Parce que c'est la caméra qui est le vrai patron. C'est cet œil terrible, terrifiant, qui voit tout. Et la preuve, c'est qu'on se souvient de beaucoup de films muets, beaucoup plus que de films parlants.
Attention, il y a tout de même une histoire que vous racontez dans votre livre et qui est quand même bien intéressante. C'est une des séquences finales de La Grande Illusion, où vous avez demandé à Renoir de changer le dialogue.
Oui, parce que, oui, dans le caractère, ça me paraissait incroyable. Est-ce parce que je ne suis pas gentil ou que je suis méchant, je n'en sais rien. Mais j'ai trouvé que partant comme ça, pour retourner en Suisse ou chez nous, puisqu'on s'était évadé, c'était pas naturel qu'avec une jambe à la traîne, avec Maréchal qui avait bien voulu m'emmener avec lui, que Gabin me disant « ta petite jambe, je vais te la soigner » alors qu'il est excédé par moi. Il y a des jours et des jours que nous marchons avec un bout de sucre comme caviar. Et chaque jour dans la pluie, dans la neige, en montagne, pour arriver enfin en Suisse, qui me disant « oh mon pauvre petit, oh Rosenthal, attends, je vais te ficeler ça, tiens, je vais prendre mon mouchoir. » J'ai dit « c'est le contraire qu'il faut faire, mais c'est là la grandeur d'un homme qui n'avait pas besoin de moi pour faire des dialogues. » Parce que... Mais tout d'un coup, il s'est dit « mais mon petit juif a raison, là. Bien sûr, moi, d'instinct, je savais que c'est pas possible. » Parce qu'à ce moment-là, ça a amené alors le sale juif. Parce qu'à ce moment-là, on se souvient des antécédents. On aime bien les Arabes, on aime bien le peuple. Mais tout d'un coup, il y a une odeur qui vous déplaît. Alors, on l'engueule. Cet homme qu'on adore, qu'on porte sur son cœur, qui va devenir votre fils adoptif. Il l'a compris et ça a amené... C'est le contraire. Alors, tu viens. Alors, ça va, mais c'est ma jambe, ta jambe. Alors. Et ça a commencé jusqu'à ce que le héros me dise, eh, puis d'abord, les Juifs, j'ai jamais pu les blairer. Ce qui est vrai, c'est pas qu'il était antisémite et qu'il n'aimait pas les Juifs, mais là, il s'en souvenait. Parce que, comme on dit, le catholique disait souvent, enfin à cette époque, et peut-être maintenant, j'aime bien les protestants, je ne déteste pas les Juifs. Il y a tout de même une petite différence. Enfin, ça. Mais Renoir, et vous voyez, Renoir a ça de curieux. J'ai passé ces 4 années, donc, en Amérique, presque 5, j'ai toujours essayé de lui faire parler du cinéma, jamais. C'est un secret qu'il a avec des dieux que je ne connais pas, qui est peut-être son dieu à lui, c'est peut-être une conversation secrète qu'il a avec lui, comme tous les créateurs, pas un mot, comment on fait, où on met l'appareil. Il me parlait toujours de poterie, qui avait été son premier métier, ou comment on fait la bière, alors que j'étais curieux de savoir où on met la caméra, bien sûr.
Alors, vous avez eu la chance, et Hawks a eu la chance, lui aussi, puisque c'est réciproque, de vous avoir dans un rôle très important d'un très très beau film qui s'intitule en français Le Port de l'Angoisse,
oui.
Et qui a marqué la rencontre de Lorraine Bacall, oui. Et de Humphrey Bogart. Et vous jouiez un rôle très important dans ce film.
Oui, enfin, pour moi, qui ne jouais que des petits personnages à côté, comme on en donne aux petits Français qui sont là-bas, à moins d'être jeune premier, parce que quand vous êtes beau, vous n'avez plus de pays. Votre pays, c'est le monde, naturellement. Mais moi, je n'étais pas beau. Enfin, j'étais agréable comme ça pour mes amis. C'est tout. Mais enfin, je ne pouvais pas subjuguer les masses. Alors, on me donne enfin un rôle valable. Bon, bien sûr, dans un film qui, tout compte fait, dans tous ces films qu'on a fait à cette époque sur la résistance, en vaut bien d'autres, bien sûr.
Ah, moi, je trouve que c'est un très
non,
film.
Non, mais je parle la facture, bien sûr, très bien. Mais, évidemment, là, j'ai connu Bacall, qui arrivait pour la première fois de New York, et on est 20. Alors, elle se confiait à moi, parce que j'étais déjà le plus vieux. Bogart était plus jeune que moi. Et j'en remettais, je faisais le monsieur qui a une longue expérience. Alors elle venait et puis je me disais, après tout, j'aimerais bien la revoir en dehors du travail. Alors j'en mettais, comme je me disais, elle ne va pas me juger sur mes petites lignes de Frenchie dans le film. Je vais lui dire qui je suis, j'essayais. Mais elle était tellement impressionnée par ses débuts qu'elle se serait jetée même sur un figurant pour lui demander conseil. Bon, je valais bien 10 figurants. Alors, elle sortait avec moi. Et puis, un beau jour, je m'aperçois qu'elle me dit, « Oh, ben tiens, puisqu'on sort ensemble, Marcel, qu'on débute tous. » Moi, c'était mon premier rôle appétissant avec Ox. Donc, et elle, c'était son premier rôle, puisqu'elle arrivait de New York, où elle était mannequin. Et on sortait, et un beau jour, elle me dit, « Oh, ben, tu sais, ça ne t'ennuie pas, je crois que Humphrey, un beau gars, va venir prendre un café avec nous, parce qu'il est libre ce soir. » Et puis, je me suis aperçu, ça c'était la première semaine de tournage, que la seconde semaine, il venait tous les jours prendre le café. Et puis, parlait. Il ne se montrait, il ne montrait pas ni ses désirs, ni l'avenir qui allait être le leur. Rien. Et moi, pendant ce temps-là, je me disais, là j'ai un concurrent redoutable. Et je l'avais, mais comme il se tenait très bien, puisqu'il était marié, et qu'il allait divorcer d'ailleurs, mais à cause des mauvaises langues, à cause peut-être des sommes à donner quand on divorce, tout cela. Enfin, ça s'est fait sous mes yeux. J'étais le chandelier, une fois de plus, ça m'était déjà arrivé avec Pierre Brasseur, il faut bien le dire.
Bon, alors, Bogart est quelqu'un qui fascine énormément les cinéphiles aujourd'hui.
Ils ont raison. C'est un homme, on croit qu'il était à l'aise. Il avait toujours un tic avant chaque scène. Il se frottait les doigts pour calmer une nervosité intérieure. Je le revois encore comme ça. Il se frottait les doigts, pourtant, sans arrêt. Je disais, mais pourquoi fait-il ça? Alors je disais, mais il est bien nerveux. Pourtant, il n'a pas dans la scène être très nerveux. Il va parler. C'est pas tellement important. Lui est américain, il sait ce qu'il a fait. Et ça le calmait. Et il entrait comme ça. Alors je me disais, c'est fabuleux, voilà, la grande vedette, parce qu'à ce moment-là, il avait déjà fait Casablanca, et tous les films avec Cagney, avec des géants. D'ailleurs, Cagney, c'est le meilleur, il n'y a pas de doute, c'est le géant. Robinson, enfin, toute la grande race d'acteurs pour ce, pas mauvais cinéma, mais pour le cinéma de mauvais garçon, où ces films sont très bien faits pour l'époque. En tout cas, il y a toujours un mouvement qui nous séduit, et des acteurs prestigieux. Et la vraie gentillesse, parce que lui aussi demandait pendant des scènes des conseils. Et je ne mens pas quand je dis dans le livre qu'à un moment dans une scène, il a dit « Bon, vous me donnez de l'argent, disait-il à des gens, parce qu'on voulait l'employer pour traverser en bateau, faire une traversée avec de pauvres résistants. » Alors on lui donnait de l'argent, les petits Français, dans le film, naturellement, et il répondait, il disait « Merci ». Et il partait, il disait « Mais... » C'est pas suffisant, je peux pas, il me faudrait quelque chose. Alors je vois Howard Hawks qui commence à chercher une réplique. Je lui dis, vous savez, dans mon mauvais anglais, moi je peux vous en donner une, c'est pas très malin. Mais on va vous donner, on vous accompagne à la porte. Et comme ils n'ont pas eu confiance en vous, en vous donnant l'argent, vous prenez l'argent et vous dites, maintenant vous pouvez me faire confiance. Oh, il fait, oh Frenchie, that's it, that's marvelous. C'est fantastique. Alors nous disons, mais enfin ça c'est... Des petites répliques qu'on faisait dans nos revues, en n'en étant pas très fier, il faut bien le dire. Bon, mais enfin, et il m'a récompensé. J'avais fini le film, donc, deux jours après, et il m'a fait rajouter une scène d'adieu que vous avez dû voir. On me disait, n'en fais pas trop, Frenchie, ah, ces Français qui vous embrassent toujours, et tout ça, enfin, voilà. Voilà l'homme qu'il était, sans rien dire. Comme il était puissant, il a dit, rajoutez donc une scène. Il n'a pas dit, c'est pour le remercier, mais ça l'avait un petit peu épaté qu'un acteur de complément lui apporte une réplique à lui, le grand Bogart.
Alors justement, le grand Bogart, quelle est la différence selon vous, s'il y a une différence, entre la légende de Bogart d'aujourd'hui et l'homme que vous avez pu voir tous les jours?
Eh bien, c'est un homme qui venait du théâtre, lui aussi. C'est un homme qui a attendu longtemps sa chance. Et c'est un homme qui était malade aussi. Il ne savait pas à quel point il l'était, mais il était déjà, au moment où je l'ai connu, mais il était déjà rongé par... Parce que la vie des studios là-bas, elle est terrible. Ces gens-là vivent dans la cour du studio. À partir du moment où ils sont engagés pour 7 ans, ils restent 7 ans. On renouvelle 7 ans. Alors leur éducation d'homme... d'adultes se fait dans la cour du studio ou à travers des films. Alors on boit. Alors il buvait. Et inconsciemment, il était certainement torturé par des brûlures atroces. De temps en temps, je le voyais prendre des petites pilules, mais on ne savait pas à quel point il était atteint à l'époque. Enfin, tout ça ne nous donne pas le Bogart que vous cherchez. Mais en fait, 20 ans d'attente pour apparaître, c'est long. Et je crois que lui, ça ne l'a pas aigri, mais ça l'a rendu émouvant. Ça lui a fait abandonner de grands espoirs qui sont venus qu'à travers Casablanca, après tout de même des forêts pétrifiées où nous le trouvions merveilleux, et tous les films de mauvais garçons. Mais ce n'était pas lui la star. Il était aussi acteur de complément. Comme il avait un bon visage, bon, ben, on disait, tu seras chef de bande, et on lui donnait aussi un revolver, et on abattait 2 ou 3.
Et ce que vous dites sur Bogart et la souffrance et la maladie est tout à fait curieux, parce que ça recoupe une analyse qu'André Bazin et François Truffaut avaient fait après, en disant que ce personnage de Bogart, à partir du moment où il est devenu une star, était habité par la mort.
Oh, comme c'est curieux. Ben, je suis ravi de cette rencontre, parce que là, me demander, je cherche, et je me suis dit, ça ne peut être que ça. Et il avait ça dans les yeux, il avait des yeux émouvants, il avait un rictus qui devait cacher une certaine souffrance, une certaine angoisse. Elle est connue, on connaît ce rictus qui venait de temps en temps dans les scènes, comme s'il remettait son dentier en place alors qu'il avait de bonnes dents. Ah, que c'est curieux, ça, c'est l'analyse. Ben, nous sommes des docteurs Freud, nous aussi.
Et alors, parmi les gens de l'équipe du port de l'angoisse, il y a un monsieur tout à fait singulier que vous voyez circuler entre les prises et qui s'appelle comment ?
Oh, il s'appelle, ben, je vais, faut que je vous raconte l'histoire. Il y a toujours, n'est-ce pas, autant on est habitué à la machine, naturellement, que ce micro ne me fait pas peur, ni la table, ni vous, puisque vous faites partie du métier. Mais il y avait toujours devant la caméra un petit bonhomme avec une pipette, l'air d'un petit vigneron autour de Dijon, quoi, un petit bourguignon comme ça, le nez bien rougeau avec des petites taches de poireaux comme ça, un peu négligé, des gilets de chasse par exemple, dans un studio. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il peut bien faire, ce bonhomme? Et il me gênait parce qu'il écoutait sérieusement ce qu'on faisait. Il disait, mais remplacer ce vieux monsieur, il m'ennuyait tout le temps sous notre nez, à guetter. Et il ennuyait la technique qui lui disait, ah, Bill, you're always on our feet, vous êtes tout le temps dans le genre, get out, allez, foutez, quand partez, Bill. Et puis un beau jour, j'entends, Faulkner, on appelle, ah, au téléphone. Et je vois mon bonhomme qui va au téléphone, qui est sur le studio, il y a toujours un petit téléphone. Et tout d'un coup, il m'apparaît que ce Faulkner, je connais ça, mais je ne peux pas associer William Faulkner, le grand auteur, le maître de la littérature américaine, à ce petit bourguignon qui m'ennuie pendant que je dis, comme dans les films de Renoir, « Ah, it's you, Humphrey, oh, yes, sir !» Enfin. Et on me dit, mais Faulkner, c'est le writer, c'est l'écrivain, c'est... Oui, it's Bill Faulkner, c'est William Faulkner. Je suis resté à l'idée que si nous avions André Gide dans un studio quand même, ou un Adolphe France avant-hier, ou enfin, tout ça, on lui donnerait le fauteuil du grand roi, enfin, en tout cas, au moins un coussin, s'asseoir, tandis que lui, il gênait tout le monde, on le foutait à la porte. Et ce grand bonhomme écrivait quand même des petits bouts de scène. Et il venait me les montrer, je vous le jure, qu'il devait s'en foutre, il devait être là, il saoulait un peu.
Attention, il était très très ami avec Hawks, qui a
beaucoup
travaillé avec lui.
Oui, et on lui avait trouvé un petit emploi, parce que Hawks sait très bien que cette grande littérature ne se vendait pas comme du Hemingway. Alors bon, Hemingway tire à 100 000 et lui tire à 3 000. Peut-être que maintenant, avec les étudiants, il est devenu le classique, on le lit, bien sûr. Mais à ce moment-là, il avait le petit contrat, $250 la semaine, et il saoulait tranquillement dans son petit cagibi. Voilà, qui ressemble à quelque chose comme ça, là, comme un petit studio tranquille. Et il descendait, puis il faisait ses petites lignes sur la résistance, il se foutait pas mal de ce petit film sur la résistance qui se passait à la Martinique, alors que c'était une histoire qui devait se passer à Cuba. Mais enfin, les arrangements à la Warner, on a trouvé une bonne situation pour Boga et on s'en est servi. Il me montrait, lui, le grand Faulkner, me montrait des dialogues insignifiants. Des oui, il me disait, est-ce que ça ira ? J'étais tout tremblant quand je savais que ça allait venir. Je disais, mais qu'est-ce que je peux lui dire? Oui, un Français sera toujours là pour relever le gant. Bien sûr, un Français meurt, un autre se relève. Et même mort, il est toujours vivant. Enfin, des dialogues conventionnels. Et j'étais obligé de dire, oui, that's all right. Et bien, that's all right. On en coupait là-dedans. On gardait, il y aura toujours un Français pour relever le gant et abattre l'ennemi. Bon, et puis ça passait comme ça. Ah oui, ça, c'est une aventure. J'en suis encore ému.
Et Hawks lui-même, quel portrait pouvait faire de lui?
C'est la gentillesse même, alors qu'il fait peur, comme les Danois, ces chiens qui ont 2 mètres de haut, qui font peur. On se dit, il va me manger avec toute ma famille en 3 coups de dents. Eh bien, ce même homme, à l'œil glacial, c'est l'homme le plus compréhensif, le plus aimable, et je crois que c'est lui qui est très intimidé par nous tous. Même le plus humble des acteurs, il en est gêné. Je crois que c'est ça, le drame. Alors, il ne dit pas un mot. Il ne bronche pas, mais il vous dit, quand on lit les scènes, s'il y a des changements, dites-moi ce qui vous gêne. Et on peut le faire. Je doute que... Bon, on pouvait le faire avec Renoir, bien sûr, que les grands patrons, on peut leur parler. Mais là, ça se faisait aux yeux de tout le monde. On changeait, on disait non, il me semble que je ne dirais pas. Il disait, oh, oui, c'est all right. On arrangeait, on faisait la scène. Petite répétition avant le tournage, tout ça. Alors, ça n'a aucun rapport avec la position qu'il avait, parce que c'est un des grands maîtres du cinéma américain. En tout cas, tous les films de mauvais garçons, on les revoit faits par d'autres. Oui, depuis 40
depuis,
ans.
Depuis Scarface, oui.
Depuis Scarface.
Oui, il a donné le modèle du genre. Ouais. Il a donné également le modèle du genre de tous les autres genres, avec le western, avec ses westerns, avec ses films d'aventure, avec ses comédies.
C'est cela. Mais le vrai drame pour tous les acteurs de cette époque, maintenant, il n'y a plus de contrat à 7 ans, alors peut-être qu'ils iront s'éduquer dans la vie, mais les Taylor, tout ça, ça a été éduqué dans la cour du studio, les Shirley Temple, et même les acteurs. Alors, vous pensez qu'un homme comme Spencer Tracy, entre deux films, louait une maison à Malibu et se saoulait la gueule, pardonnez-moi l'expression, pendant le mois où il ne tournait pas. Il s'enfermait et il voulait oublier toute cette gloire, parce qu'il était glorieux, mais il vivait qu'entre des bouts de fil, des camions. Le studio, c'est pas beau, c'est un grenier sans poésie, n'est-ce pas ?
Et comment était la vie de la petite colonie française d'Hollywood pendant la guerre ?
Eh bien, il se méfiait un peu des Français. Ils ne nous auraient pas pris, nous, les acteurs français, dans leurs films. Parce qu'ils savaient que nous avions un accent, un fort accent. Et peut-être même eux, à travers leur position internationale, parce que les Duvivier étaient très connus, René Clair aussi. Mais on n'a pas vu un acteur français dans les films qu'ils ont faits là-bas.
Ça, c'est vrai.
Ah oui, mais pas un, ils ne nous auraient pas pris. Ah non, non, ils se méfiaient de nous. Même nos camarades qui avaient des positions là-bas ne nous auraient pas pris. Et moi, par exemple, j'ai eu avec Boyer, je venais d'arriver, j'avais tourné un film qui s'appelait « Une nuit à Lisbonne », où faisait un maître d'hôtel. Voilà. Remarquez, je disais deux mots, et en anglais, quand j'ai eu dit ces deux mots, j'ai cru que j'avais conquis le mont Everest. Je le jure, je venais de monter l'Himalaya, j'avais été Room 26, chambre 26, dis-moi qu'il se passe, s'il vous plaît. Et j'étais tellement ému. Bon, je fais des effets dans ce film parce qu'il y a une scène en français avec Fred McMurray et Madeleine Carole qui parlait français très bien. Alors le metteur en scène nous dit, vous parlez français, improvisez. Et j'improvise si bien que je fais mes effets. Ça, c'était l'affût. Alors bon, j'étais un maître d'hôtel, genre, me disait Fred McMurray en anglais, est-ce qu'il y a des brosses dans la chambre? Et elle me traduisait, elle me demande s'il y a des brosses. Alors, choqué, alors je citais toutes les brosses dont peut se servir un individu, depuis la brosse à dents, celle pour dans le dos, enfin la brosse à dos pour le bain, les chaussures. Et elle, je fais un tel numéro avec ça, en imitant, en enseignant, que je frappe l'imagination des dirigeants là-bas qui veulent m'engager. Et je venais d'arriver, ça allait être ma chance. Mais Boyer tournait, c'est pas pour dire du mal de Boyer, mais il sait très bien que je parle pas la langue. Alors il dit non, pour là, le rôle est un peu important, attendons un petit peu, mais il nous aurait pas pris, ça, c'est vrai.
Il y a une autre rencontre assez étonnante dans votre vie, c'est celle de John Ford. Parce qu'après tout, vous avez tourné avec Bresson, avec Renoir, avec Hawks et avec John Ford.
L'un que j'avais oublié, c'était Wyler. J'ai tourné avec Wyler après.
Oui.
Et Bill Wyler, j'ai tourné avec tous. Bah, évidemment, je vends des compositions, 3 jours ici, 2 semaines là, 4 semaines bien sûr. Mais enfin, c'est étonnant que je les ai tous faits. Et Wellman, le grand Wellman de A Star Is Born. Alors lui, c'est mieux, il m'a donné un parachutiste. J'avais déjà 50 ans, j'ai joué un parachutiste qui descendait sur bien fou, alors c'est tout de même curieux. Mais John Ford, ça l'a amusé. Il m'a vu, on m'a présenté à lui, et je m'étais arrangé. J'ai dit, on m'a dit, c'est pour un rôle de curé. Alors à ce moment-là, je me teignais les cheveux, c'était épouvantable. Je me suis dit, je suis mince, j'ai l'air vraiment d'un vieux joueur pour un mauvais club, pour un mauvais casino, qui risque sa pièce de 100 sous. Je lui disais, il ne va pas me prendre. Alors je me mets un faux ventre, je m'arrange, je cache mes cheveux, je mets de la poudre de riz sur les côtés pour faire plus vieux, pour faire, je croyais que ça faisait brave curé de campagne. J'étais ridicule en arrivant, il l'a vu tout de suite. J'ai pris une démarche de petit vieux, il a dit non, Non, Marcel, enlevez ce faux ventre, enlevez la peau, non, et restez comme ça tout de suite, Marcel, parce que c'était le grand-papa, alors on était nous tutoyés tout de suite, naturellement, et on était assez fiers de ça. Et il m'a surtout engagé parce que je crois qu'il a voulu faire une farce à John Wayne. Il m'a dit, quelle est votre religion ? Parce que, non pas parce qu'il ne m'aurait pas appris si j'étais juif ou protestant ou musulman, mais c'est parce qu'il y avait à accomplir les rites. Je devais dire la messe, prendre les objets, faire boire le vin sacré, donner le pain béni, il y avait tout ça. Alors il m'a dit, je lui dis, mais je suis juif, I'm a Jew. Are you a Jew? Alors là, il se met à rire. Oh, that's marvelous. Oh, let's, alors, que John Wayne écoute ça, alors, ça, c'est ça. Et il m'a engagé, je lui ai dit, mais je peux très bien jouer un curé parce que j'ai été élevé chez les catholiques, j'ai même été enfant de cœur. Je lui raconte ma petite histoire et en effet, mes parents m'avaient mis en Bourgogne dans un père nourricier, mère nourricière, qui est un charmant patelin qui s'appelait Billy, les chansons Côte d'Or. On ne peut pas avoir... C'est ce que je regrettais le plus quand j'étais en Amérique. Je disais, si j'étais habillé, les chansons Côte d'Or, il est vrai que j'avais 5 ans ou 6 ans. Mais, avec John Wayne, à chaque fois qu'il me voyait, alors il m'engage. Donc, on avait dû lui dire parce qu'il dit, ma femme vous aime beaucoup. Ma femme vous aime beaucoup parce que ma femme ne peut pas supporter mes films, elle ne voit que les films français. Je me dis, alors ça, je suis vraiment béni des dieux. Chrétien ou juif, parce que sa femme voit déjà, alors il a dû demander, elle a dit, prenez ce petit, elle voyait tous les films français, tous, depuis nos classiques jusqu'au dernier film. Et il me dit, maintenant je vais vous présenter à John Wayne, qui va être votre partenaire dans le film. Alors moi, je suis tout ému, je vais voir le garçon d'écurie le plus célèbre du monde, ça m'étonne, n'est-ce pas ? Alors, je le vois. Et il lui dit, Marcel, what's your race? Tell me, Marcel. Comme s'il ne savait pas. Il dit, ben, I'm a Jew. Are you a Jew? Oh, hear that, John. John. He's a Jew. He's going to play the priest. Il va jouer le... Et il m'a pris, il m'a adopté. À partir de ça, d'abord, ce matin, il m'a franchi. Il s'est peut-être dit, tiens, il m'a dit qu'il était juif, il aurait pu dire non, je suis catholique, pour jouer un prêtre catholique, je n'en sais rien. Ce qui s'est passé dans la tête de ce grand bonhomme, mais ça l'a amusé. Je crois que ça l'a amusé parce que plusieurs fois pendant les scènes, you are real Jew, vous êtes un vrai juif. Ah non, 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 non. Non, la façon dont vous avez dit la messe là tout à l'heure, vous n'êtes pas. Non, non, je disais, je vous jure, et je suis, j'ai fait ma première communion. Enfin, je recommençais moi, j'entrais dans le jeu. J'avais bien compris que ça agaçait un peu l'autre parce que l'autre est. Non pas qu'il est antisémite, mais on savait qu'il était un peu quand même d'extrême droite, que pour un prêtre catholique dans un film dont il est la star, que ce soit un petit juif qui joue justement le révérend père, enfin tout ça. Enfin, bon, je vous donne ça, c'est peut-être pas vrai tout ça, mais je crois qu'avec John Ford, parce que John Ford ne met pas en scène, il s'amuse, il joue tous les rôles, mieux que nous. Il a vraiment l'air d'un épouvantail. C'est exactement, il ferait peur aux oiseaux si vous le mettiez dans un champ. Parce que d'abord, il n'a qu'un œil, il a cet œil superbe, il n'en a qu'un, mais alors celui-là voit tout. Et depuis très longtemps, c'est l'œil vrille, c'est l'œil qui vous pète, c'est là. Et il s'amuse, il n'a plus de dents, il a un vieux mouchoir qu'il tient sur la seule dent qui lui reste, il fume des vieux cigares coupés en 12, parce qu'ils ont une Madame Veil là-bas sur mon canis, ça fait mal. Vous allez mourir. Alors bon, alors il les coupe en 12, des vieux cigares. Alors il a ce petit bout de cigare, il a ce mouchoir chrétien, et puis il rigole. Et il met en scène, il improvise. Et il ne va jamais voir les bouts. Comme on dit, les rushes, je lui dis, mais vous n'allez jamais dire, non, non, je sais à la troisième, si c'est la troisième, je sais quelle est la bonne, j'ai un monteur pour ça. Et puis après, il me présente le travail. Enfin, je vous fais un tableau un peu simplet, mais c'est l'homme.
Oui, non, mais ce qui est
extraordinaire. C'est un homme qui s'amuse. Il a 6 ans, il ne s'est jamais amusé qu'en tournant. Voilà, voilà mon avis.
Mais ce qui est fantastique pour nous, qui n'avons pas vraiment vécu avec lui, c'est que quand on voit ses films, on a l'impression que, effectivement, ce sont des films qui sont faits par quelqu'un qui est ému par ce qu'il filme, qui rit avec ses
acteurs. Oui, 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 oui. Et plus on en fait, pensez donc que même dans la scène, quand il a vu qu'on me donnait des couronnes, et comme moi, mes revues sauvées, je ne sais pas pourquoi, je voulais faire des effets, j'ai pris la couronne et je les ai envoyées sur les pierres tombales, comme quand on joue au fer à cheval. Alors là, il est venu m'embrasser. Ils ne l'ont pas gardé, bien sûr, après. Mais que j'ai eu l'audace de faire ça, il m'a pris dans ses... Il me traînait avec lui tout le temps. Je vous le jure. Bon, c'est un trait qui l'a amusé. Il a dit, se dire, tiens, il s'amuse autant que moi, celui-là. Voilà. C'est un bon copain.
C'est peut-être là le secret, finalement, de votre complicité avec de tellement grands réalisateurs. C'est que vous aussi, vous n'avez pas arrêté de vous amuser en faisant votre métier.
Oui, mais eux s'amusaient vraiment. Moi, c'est un martyr. Parce que je prends ça tellement au sérieux que même un « ah, je blague comme ça », je cherche le qui, pourquoi, comment. Je l'oublie, heureusement. Parce que comme on le sait, j'ai une nature, j'oublie ce que j'ai échafaudé. Et en jouant, je fous la maison en bas et puis je crée une petite baraque. Voilà.
C'était Marcel Daliot au micro de Claude Jean-Philippe dans Le cinéma des cinéastes, première diffusion le 11 avril 1976 sur France Culture.